Saint-Girons, 11 octobre 1840. C'est un dimanche. Il est 8h du soir et le commissaire de police de la ville fait sa tournée d'inspection coutumière. La journée fut fort paisible et notre zélé fonctionnaire s'apprête à regagner son logis quand tout à coup, je cite, un bruit confus et tumultueux attire son attention. La rumeur à peine audible s'amplifie rapidement jusqu'à prendre la dimension du vacarme. Le brouhaha semble provenir du lieu dit Pladelon. Intrigué et fortement inquiet, le policier se dirige vers le quartier incriminé dans le Pladelon. Sur place, il se trouve en présence d'une foule nombreuse et visiblement excitée. Des individus scandent des jurons, d'autres chantent des chansons aux paroles peu amènes, tout en frappant avec vigueur sur des objets métalliques. Interrogés par le commissaire, des quidams paisibles répondent qu'il s'agit d'un charivari organisé à l'encontre d'un boulanger veuf désireux de convoler en seconde noce. Le fonctionnaire apostrophe deux participants particulièrement agités et leur intime l'ordre de cesser toute agitation. Ceux-ci, loin d'être intimidés, le narguent avec ostentation. L'un d'eux va même jusqu'à le menacer d'un soufflet. La tension monte rapidement, les insultes et les menaces fusent de toutes parts. Se sentant isolé et impuissant au milieu de la multitude hostile, il se précipite vers la caserne de gendarmerie pour demander de l'aide. Renforcé par le substitut du procureur du roi, le maréchal des logis et quatre gendarmes, il rejoint le cortège qui a atteint entre-temps la rue Villefranche. La présence de l'escouade de police ne fait que renforcer la fureur populaire. Les agitateurs, refusant d'obéir aux ordres des gendarmes, ceux-ci procèdent alors à quelques arrestations. La tension est à son paroxysme. Profitant de la confusion, un jeune plâtrier s'échappe des mains des gendarmes en vociférant des injures. Après concertation, les forces de police se retirent. Le lendemain, un nouvel attroupement se forme place Saint-James. Les autorités informées que des menaces sourdes mais énergiques circulent dans la ville sont sur le pied de guerre. Depuis la fenêtre du premier étage de l'auberge, 9 individus chantent à s'accompagnant, je cite, d'instruments discordants tels que pelle à feu et bassinoire. À l'extérieur, 5 à 600 personnes, selon les témoins, organisés en groupe, répondent à leur chant par des refrains en patois de pays et par des cris d'ailleurs assourdissantes, tel est le texte du procès-verbal. Faire usage de fermeté s'avérait suicidaire vu le rapport des forces en présence. On demande aux gens de rentrer paisiblement chez eux. Comme on peut s'y attendre, le plus grand nombre ne tient aucun compte de l'invitation faite avec beaucoup, beaucoup de douceur selon la police. Le substitut du procureur du roi, ceint d'une écharpe tricolore, s'introduit au milieu du rassemblement. Les gendarmes font les sommations d'usage, précédées chacune par un roulement de tambour. Ordre est donné alors de procéder à l'arrestation de ceux qui sont présents sur les lieux. Le résultat ne se fait pas attendre. De l'auberge, les chants redoublent d'ardeur et les pinces à feu retentissent avec encore plus de frénésie. Le substitut, assisté du maire et de 2 gendarmes, s'introduisent alors dans le bâtiment. À leur approche, la plupart des occupants s'échappent par la fenêtre, à l'exception de 5 jeunes gens attablés devant un verre de vin. On imagine la scène. S'étant saisi de ces consommateurs insensibles aux injonctions légales, ils ressortent sous les huées et les jets de pierre. Pour faire face à cette situation pour le moins délicate, les forces de l'ordre adoptent l'impassibilité de façade. Leur calme et leur détermination portent apparemment leurs fruits, puisque le plus grand nombre des participants quittent peu à peu la place Saint-James. Certes, quelques petits groupes se dispersent dans la ville en faisant retentir les cornes de brune, puis le silence s'empare de Saint-Girons dès les 11h du soir. L'examen de la procédure passe sous silence le responsable de toute cette animation. De lui, on ne sait rien, hormis le fait qu'il soit veuf et désireux de refaire sa vie. Pourtant, le charivari qui lui était destiné n'est pas une partie de plaisir. Cette tradition du charivari, vestige de la vie des communautés de l'Ancien Régime, était particulièrement cruelle. Elle frappait tous ceux qui avaient contrevenu aux normes de la vie sociale. Dans le monde clos des villages et des quartiers, cette véritable police parallèle des mœurs était impitoyable. Dirigée par la rumeur publique, elle visait à ridiculiser, à briser psychologiquement. Dans certaines contrées, par exemple, on obligeait la victime à monter sur un âne, le visage tourné vers la queue de l'animal. Il n'y avait pas de place pour la pitié et la solidarité, puisque chacun était tenu de dénoncer et de participer sous peine de sanctions similaires. Cette forme de justice grossière qu'était le charivari dérangeait fortement les autorités, qui voyaient là des occasions de troubles. Les comptes rendus de sous-préfets et de préfets mettaient bien en évidence l'état d'esprit de cette population prompte à descendre dans la rue pour insulter et menacer les représentants des pouvoirs publics. N'oubliez pas la guerre de demoiselles, épisode de tradition de rébellion forestière, les révoltes frumentaires liées à la surpopulation et à la disette quasi endémique avaient de quoi maintenir la vigilance des garants de l'ordre public. On redoutait tout ce qui pouvait servir de prétexte à l'expression de thèmes politiques et sociaux. Les comptes rendus des différents protagonistes n'abordent en aucun moment ces sujets de préoccupation. A-t-on affaire à une omission volontaire ? Les individus jugés sur la fenêtre de l'auberge et scandant des grossièretés lisaient des textes rédigés pour la circonstance. Ces couplets, repris en dialecte local par la foule, devraient nous donner bien des indications sur l'état d'esprit de nos couserannés. On n'en connaîtra probablement jamais le contenu. La version des faits officielle et aseptisée ne laisse sourdre ces échos, ces commentaires qui donnent une couleur et une touche particulière à l'époque et au microcosme d'une petite cité couseranaise comme celle de Saint-Géron. Le poids de la tradition, des droits acquis, était tel que toute intervention des forces de l'ordre se heurtait au refus d'obtempérer. En ce jour d'octobre, un des meneurs revendique le droit de faire le charivari et la fille de l'aubergiste continue de heurter les pincettes à feu malgré les menaces des policiers, vu qu'elle est chez elle, selon le procès-verbal. Quelques jours après ces événements, on retrouve la même revendication dans une lettre anonyme adressée au substitut du procureur du roi. L'auteur de cette missive va jusqu'à la menace de mort et l'intimidation pour faire libérer le meneur injustement arrêté selon cette missive. Dans cette lettre, on lit « Si nous avons le bonheur de vous empoigner, vous êtes mort et c'est comme si vous en étiez déjà. Le charivari se fera malgré tout et malgré toutes vos troupes, rien ne nous fera reculer. » On comprend mieux pourquoi le maréchal des logis et les gendarmes de Saint-Géron ont réagi avec mollesse lorsqu'il a fallu interpeller les instigateurs le premier jour des troubles. N'ont-ils pas favorisé leur escapade à la barbe de leurs supérieurs hiérarchiques ? Selon les historiens, cette pratique du charivari fort répandue avait souvent pour motif le mariage en dehors des normes admises. Il importait de procéder, de protéger le patrimoine des enfants du premier mariage et les intérêts des héritiers dans un contexte de mortalité élevée et de surpopulation. De plus, des notions telles que l'honneur du défunt et d'un membre du village intervenaient. Pour Jean-François Soulet, le veuvage engendrait une certaine suspicion dans une société où les préceptes religieux prônant la continence étaient toujours aussi omniprésents. Nous voici quelques années plus tard à Torignan-Vieux, le 11 février 1847. Une jeune fille du village est à la veille de se marier avec un veuf. Fidèle à la tradition d'usage, la jeunesse décide de faire un charivari à Torignan-Vieux. Dans les rues retentissent alors des bruits faits de clameurs, de chants, parfois obscènes. Un tapage étourdissant, amplifié par l'entrechoquement d'instruments métalliques, dérange la quiétude des habitants de Torignan. Il est 8 heures du soir. Le frère de la promise n'apprécie pas ce tintamarre compromettant la réputation de sa famille. Allant devant le cortège, il apostrophe Joseph d'Argin, âgé de 24 ans, et l'accuse d'être l'instigateur d'un charivari. Le supposé coupable est agoni d'injures et menacé d'être jeté au salat. On voit l'ambiance. Malgré ses protestations, le cortège en folie continue de manifester. Au fil des heures, les propos deviennent plus acerbes et les faits et gestes des participants trahissent de plus en plus une violence manifeste. À 22 heures, la gendarmerie, alertée par la tournure des événements, décide d'intervenir. Les participants n'entendent pas arrêter leur manifestation, conscients d'exécuter leur droit ancestral au charivari. Nous retrouvons Joseph, porteur d'un grand coutelas de boucher à la main droite et d'une grosse pierre à la main gauche, ce qui donne une idée de l'état d'esprit. Le jeune homme, le sarcasme aux lèvres, s'approche de l'officier et le menace. Le gradé, peu impressionné, dégaine son sabre et porte la pointe sur la poitrine de Joseph. D'un ton comminatoire, le gendarme lui ordonne de mettre bas les armes. La foule de Torignan est parcourue par une onde de colère, laissant craindre un incident qui peut être dramatique. Les gendarmes, enhardis par le geste de leur supérieur, poursuivent des manifestants qui se jettent dans le salat. À l'abri de la végétation des berges, les jeunes gens s'arment alors de gros galets et les lancent sur la marée chaussée. Les forces de l'ordre, surprises par cette contre-attaque, ne veulent pas créer une situation explosive, pouvant dégénérer à tout moment. Ils se contentent alors de tirer à l'air. De toute façon, vu l'heure tardive et la fatigue aidant, le nombre des irréductibles va en se menuisant, ramenant peu à peu le calme dans les ruelles de Torignan-Vieux. À Saint-Girons, comme à Torignan-Vieux, les deux infortunés veufs ont sans doute connu de bien mauvais moments. On se met à leur place. Après eux, bien d'autres malheureux sont sans nul doute passés sous les fourches codines d'une tradition populaire impitoyable. Dès le début du XXe siècle, la dépopulation, le progrès des moyens de communication et d'information ont progressivement favorisé l'adoption de comportements standardisés. Le charivari, victime de la modernité, a de nos jours disparu fort heureusement. Mais pour en arriver là, combien a-t-il fallu de victimes expiatoires ? Je vous souhaite de passer un excellent